Et vous écoutez France Culture. Le détective comprit alors que les forces mauvaises poursuivraient toujours la jeune fille. Mortelle randonnée, telle était la règle. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre, voué ce soir à deux films signés Claude Miller, Garde à vue et Mortelle randonnée, un huis clos suffocant et un road movie Panique, deux monuments du film noir français édité avec grand soin par TF1 Vidéo. Chronique en second temps d'émission du Wycon Festival, de la sortie en DVD d'une comédie sadomasochiste japonaise, R100. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Jean spécial cinéma ce soir, essentiellement DVD avec la sortie que nous attendions depuis tellement d'années, allez, on va dire vraiment ce qu'on pense, tellement d'années, de deux chefs-d'œuvre de Claude Miller, Garde à vue et Mortelle randonnée, que nous allons analyser évidemment plan par plan, minute par minute, tant ces films nous sont chers. Je serai pour accomplir cette tâche sacrée accompagné de Philippe Rouillet, bonsoir.
Bonsoir.
Quoi de neuf, Philippe Rouillet ?
Trouvez-nous
quelque chose d'important.
Pas grand-chose, je donne rendez-vous aux auditeurs à des projections lundi soir de La Colline à des yeux, la réédition en avant-première, la réédition du film de Wes Craven, ce sera...
C'est Carlotta.
Une nuit fauvette, oui, mais voilà, absolument, ce sera fauvette à 21h.
Fauvette attend un cinéma quiz. Pas loin de la place d'Italie.
Il faut savoir que ceux qui gagnent à mon jeu gagnent du champagne après la projection. Et mardi, je vous invite au Club Positif pour voir Gravity, le film de Cuaron. Voilà. Sur l'écran du Grand Action.
Très bien. Des invitations à retrouver sur notre page réseaux sociaux, comme on dit toujours aujourd'hui. Bonsoir, Fausto Fazulo.
Bonsoir, François.
Fausto Fazulo, qui n'est pas encore le rédacteur en chef d'une revue de manga, qui va apparaître fin janvier. On n'en dit pas plus.
On n'en dit pas plus pour le moment, mais ça devrait apparaître si tout va bien, si les dieux du manga sont avec moi d'ici la fin janvier. Ouais.
Mais ils le sauront, absolument. Donc, on en reparlera fin janvier. D'ici là, on peut toujours se projeter sur le dernier numéro de Mad Movies, entièrement consacré à Mel Gibson, le plus grand cinéaste de tous les temps.
Et un cinéaste bis qui s'ignore aussi par moments, je pense. Et un cinéaste passionnant et malheureusement très très sous-estimé en France et ailleurs aussi d'ailleurs.
Et il faut aller voir son dernier film qui est...
Tu ne tueras point.
Tu ne tueras point. Donc encore un film sur la vocation évangélique et biblique, puisque c'est un film de guerre, gore.
C'est exactement ça. Mmh. Vous avez visé juste à tous les niveaux. Évangélique, guerre et gore, c'est tout à fait ça.
On dit deux mots du pif.
On dit deux mots du pif, on est en train de boucler la programmation.
Il s'agit quand même du Paris International.
Pas du vin. Hein.
Non, absolument pas. Aucune dégustation, aucune invitation à déguster du vin, désolé. Mais non, on est en train de travailler sur la programmation. Peut-être deux mots et deux, trois noms d'invités qui seront présents pendant le festival. Alors, il y a une nuit zombie qu'on va organiser donc le samedi 10, si je ne m'abuse. Dans les grands highlights du festival, il y aura la projection en version intégrale et copie restaurée du opéra de Dario Argento en sa présence. Alors, c'est une projection qui est très importante puisque le film n'est jamais sorti en salle en France. Il est sorti sous une version tronquée en VHS sous le titre Terreur à l'opéra. Et là, ce sera l'occasion de le découvrir sur grand écran en version intégrale et en présence du réalisateur. Et puis aussi une toute nouvelle copie restaurée par la Cinémathèque de Bologne de Zombies de Romero qui sera projetée le samedi soir. Ça, c'est pour la partie rétro.
Le montage européen.
Donc approuvé et chapeauté par Dario Argento lui-même.
Très bien. Tout rendez-vous sur le site du PIF aussi. Puisque
www.pi3f.fr.
Voilà, les choses sont dites. Bonsoir, Sixtine Audebert. Sixtine Audebert, vous allez nous parler du Wycon Festival. De quoi s'agit-il ? Rendez-vous à la fin de l'émission. Mais avant cela, quelques mots sur un spectacle du Cirque électrique auquel vous avez assisté.
Fait. Si vous voulez parfaire votre programme déjà bien goulayant pour les semaines à venir, jusqu'au 27 novembre, le Cirque électrique propose Steam, qui est un spectacle doté d'une incroyable puissance poétique. Alors, on habille, vous savez, les mécaniques traditionnelles du cirque avec l'imaginaire sombre et rétro-futuriste, donc steampunk. Et ce qui fonctionne, en fait, d'autant mieux qu'on a, en fait, un concert pendant tout le spectacle qui est basé sur la cadence un peu froide de la musique industrielle. Et donc, il y a évidemment une dimension toujours idéologique et toujours très agréable. C'est un fantastique spectacle carnavalesque, goulayant à souhait. Voilà,
tout renseignement sur la page réseaux sociaux de Mauvais Genre.
Vous pouvez mon petit article.
Voilà, et en plus, orné d'un article de Sixtine. Mais avant de parler de Claude Miller, maintenant, lançons-nous, ma foi, dans l'encyclopédie pratique des mauvais gens. Bonsoir, Céline Duchesne.
Bonsoir, François.
De quelle page, de quelle entrée s'agira-t-il ce soir?
On va rester sur une lettre. Sur la lettre C comme C. Chargois, Marianne Chargois, que l'on avait rencontré grâce à son petit théâtre masturbatoire, livre drapé de rideaux rouges, qui nous faisait entrer dans le monde des pipes chauds, bien connu de Marianne Chargois, travailleuse du sexe et dominatrice. On l'avait vue aussi gracile et nue, incarnant une chaste dame à la licorne dans un spectacle de la chorégraphe Gaëlle Bourges à Mon Seul Désir. Et on la retrouve aujourd'hui en tant que coprogrammatrice du festival Explicite à Montpellier, 6 jours la semaine prochaine, pour se pencher sur le sexuel au sens large, sorte de laboratoire d'un genre nouveau où dialogue en toute liberté avec une bonne dose d'irrévérence des scènes queer, post-porn et féministes. Marianne Chargois.
La sexualité est effectivement centrale dans mon travail, que ce soit dans mon travail de programmatrice, comme travailleuse du sexe évidemment, et comme performeuse. S'intéresser au sexuel, c'est plutôt s'intéresser aux politiques des corps, c'est s'intéresser à des contre-cultures sexuelles qui sont extrêmement dynamiques. Et c'est aussi s'intéresser à des esthétiques et à des expérimentations qui sont menées. C'est-à-dire que, par exemple, dans le festival Explicite, qu'on appelle « Expression plurielle du sexuel », on s'intéresse, là, dans cette deuxième édition, aux cultures ballroom, cultures kiki, qui sont des contre-cultures new-yorkaises, dans lesquelles des jeunes LGBT racisés se fédèrent ensemble pour créer des balls, qui sont des systèmes de danse, de défilés. Et on voit bien que ces endroits sont des vrais lieux d'expérimentation de nouveaux modes de vie sociaux. C'est-à-dire que ce sont souvent des jeunes qui sont mis dehors par leur famille parce que LGBT, et qui, entre eux, vont reconstituer des familles de substitution. Et donc, en fait, on a là des vraies innovations dans des modes de vie et dans des modes de fonctionnement communautaire. Et voilà, et donc, et c'est absolument passionnant parce que cette entrée de « on prend une contre-culture sexuelle » amène à une vraie réflexion politique sur des modes de fonctionnement communautaire.
Le festival Explicite se tient au CND de Montpellier du 22 au 26 novembre. Le programme est concocté par Marianne Chargois et Mathieu Hochmiller et c'est bouillonnant et excitant. Ne pas rater le documentaire donc sur la scène Kiki et les plus incroyables compétitions chorégraphiques de ces jeunes gens, pas plus que la performance de Marianne Chargois et de Mathieu Hochmiller, Extime, qui mêle performance et images médicales autour de l'intime. Je recommande aussi vivement la conférence de Marianne Pavot, professeure à Paris 13, sur le discours pornographique, Marianne Pavot que nous aimons beaucoup Marianne ici, Pavot. Et une rencontre rare, donc précieuse, de Buck Angel, réalisateur et transporn activiste qui travaille à la visibilité des hommes trans. Une rencontre qui risque d'être tout aussi passionnante. Quant à Marianne Chargois, on la retrouve danseuse et performeuse auprès de la chorégraphe Gaëlle Bourges pour Vider Vénus, trois pièce à voir au CCN de Tours du 15 au 17 décembre.
Dites-moi, la scène Kiki, c'est quoi?
La scène Kiki, ben, est-ce que vous avez en tête, par exemple, le clip de Madonna qui s'appelle Voguing?
Non,
où on voit tous ces gens qui reprennent finalement des poses de la mode pour les interpréter à leur manière. Et la scène Kiki, ce sont donc des jeunes danseurs trans ou autres qui réinvestissent ce terrain-là. Voilà, de manière très belle.
Ah ben moi, j'apprends la scène Kiki à l'instant.
La scène Kiki.
Je vous conseille d'aller voir ce documentaire.
Oui, mais c'est pour ça que j'aime toujours écouter cette encyclopédie pratique des mauvais gens.
On en apprend tous les jours.
C'est le principe d'une encyclopédie, c'est de nous apprendre des choses.
Et c'est une nouvelle entrée. On aurait pu choisir l'entrée Kiki, en effet.
Voilà, ben écoutez,
c'est une prochaine fois, je compte sur vous, Céline.
Voilà, une prochaine semaine, nous irons.
Professionnel de Philippe Rouillet.
Ah ben tout à fait.
Allez à la mienne, imaginez.
Nous irons donc Kiki, mais en attendant, eh bien, passons quelques temps en garde à vue avec Lino Ventura ou sur les routes de France et puis d'Europe d'ailleurs avec Isabelle Adjani et Michel Serrault. L'heure est venue pour nous de nous intéresser au monde de Claude Miller. Thank you. Si j'étais un espion, eh bien, si j'étais un espion, j'irais espionner l'univers de Laurent Polleret, parce qu'effectivement, il est toujours renouvelé et surprenant samedi après samedi. Un extrait donc de la bande-son de ce film, une bande-son signée Serge Gainsbourg. Philippe Rouillet, Gainsbourg-Miller, ça aurait pu marcher comme collaboration?
Bah, ça m'aurait diablement
intéressé.
Ah oui,
intéressé. Bah, ça j'imagine. Oui.
Ça aurait été certainement sensationnel, et ça s'est pas fait parce que c'était compliqué, parce que peut-être Claude Miller allait plutôt, il avait une timidité, vous savez Claude, et il allait plutôt vers des gens qui connaissaient, parce que c'était plus facile, et il allait vers Alain Jomy pour faire la musique, et si Alain Jomy a pas fait la musique de Garde à vue, c'est vraiment parce que le producteur lui a dit « Non, je veux que tu prennes un musicien célèbre et je te laisse le choix entre Georges Delerue et Maurice Jarre ». Et voilà, il a pris Georges Delerue et ça a été une très bonne idée. Mais je pense qu'avec Gainsbourg, ça aurait pu être... Parce que ils aimaient ce que Gainsbourg appelait les lolycéennes. C'est-à-dire que là, il y avait un point d'entrée et de fascination commune pour les très jeunes filles.
Fausto ?
Oui, effectivement, fascination commune, ouais, peut-être pas tout à fait dans la même, avec le même ADN en termes de fascination, mais effectivement, ça aurait été une association qui aurait pu détonner pas mal. Ouais.
Voilà, Claude Miller, donc, qui a travaillé avec Charlotte, mais qui n'a pas travaillé avec Serge Gainsbourg, ça aurait été effectivement une rencontre passionnante.
On peut dire, avant de commencer, que les deux films qu'il a fait avec Charlotte Gainsbourg sortent aussi, on n'a pas le temps d'en parler ce soir, mais ils sortent également chez TF1 Vidéo, et c'est important, ils sortent en DVD et en Blu-ray, il y a évidemment L'Effronté et La Petite Voleuse. La Petite Voleuse était inédite en vidéo en France, par un scandale inouï. Parce que vous avez raison de dire que Mortelle Randonnée et Garde à vue, on les a attendus. Il y avait des DVD qui n'étaient pas très bons, mais il y avait des DVD. Là, on a des Blu-ray, des copies restaurées magnifiques. Mais La Petite Voleuse, il n'y avait rien du tout. Hein, ce scénario de Truffaut que Claude Miller a repris avec Charlotte Gainsbourg qui avait grandi.
Mais alors les films dont qu'on va évoquer ce soir, donc Mortelle Randonnée et Garde à vue, sont des films du début des années 80. Il est quand même nécessaire, Philippe Rouillet, de repartir un peu à l'aventure avant l'année 1980 et de voir quelle a été l'histoire, un peu l'évolution de Claude Miller, qui n'était pas vraiment formaté et qui ne souhaitait sans doute pas avant pour faire ce type de cinéma.
C'était auteur. Voilà, c'était un auteur, c'est quelqu'un qui a fait l'IDEC, qui a été assistant, et qui, notamment une collaboration avec Truffaut qui l'a énormément marqué, et il est passé par le court-métrage, et donc au moment de faire Garde à vue, il a fait deux longs-métrages, l'un très remarqué qui est La meilleure façon de marcher, avec Patrick Devers et Bouchité, qui se passe dans une colonie de vacances. Les deux interprètent des moniteurs de colonie de vacances, et Patrick Devers, qui a une espèce de virilité suraffirmée, surprend un soir Bouchité, déguisé en fille, dans sa chambre. Et à partir de là, est-ce que c'est qu'il est homosexuel, est-ce que pas, va s'enclencher une relation un peu ambiguë entre les deux hommes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, tout ce dont on va parler, par exemple dans Mortelle Randonnée, se retrouve déjà à l'œuvre dans les deux premiers films de Claude Miller, à savoir le voyeurisme, mais aussi le vampirisme, d'une certaine manière, et qu'on retrouve dans le deuxième film qui s'appelait « Dites-lui que je l'aime », avec Gérard Depardieu qui est marié à Miu Miu mais qui est fou amoureux d'une autre jeune fille qui est Dominique Lafin et il va la poursuivre de ses assiduités avec cette idée que cette fille est pour lui. Et en fait, la fin de Dites-lui que je l'aime, la dernière scène ressemble à l'avant-dernière scène de Mortelle Randonnée. Elles sont calquées sur le même principe. Sauf que Dites-lui que je l'aime, très remarqué par la critique, mais voilà, ça manque un peu d'entrée. À ce moment-là, Miller a quand même un producteur qui est Jean-Louis Livy, qui est passionné par son travail. Jean-Louis Livy qui a fait Les Derniers Aînés, qui était aussi agent à ce moment-là. Et pour Livy, il va essayer d'écrire un scénario qui s'appelle La Java et qui est un espèce de film un peu bunuelien dans une ville de cure et dans un hôtel de cure où il y a toutes sortes de personnages qui s'entremettent. Sauf que... Au bout d'un an et demi de travail, qui donne le scénario à Livy, Livy lui dit « ça me plaît pas, je vais pas le faire ». Et il trouve pas un autre producteur pour le faire, parce qu'évidemment c'est un film cher. Et faire un film cher quand on est un cinéaste dont les deux premiers longs-métrages n'ont pas énormément marché, c'est pas possible. Même si on a des acteurs, là encore Patrick Devers était partant. C'est à ce moment-là qu'on propose à Miller le scénario de Garde à vue. Alors, comme il le dit lui-même, il n'était pas le premier choix, Ouais. De Michel Audiard, qui a écrit le scénario d'après un polar.
Et un trio glorieux qui avait été pressenti, évidemment, l'un ou l'autre, Boisset, Gavras, Corneau. Voilà. C'est sûr qu'on avait pensé au poids lourd du film noir français.
Et en fait, avant de refuser, Lelouch va quand même Claude Miller, parce que Lelouch aussi, je parle de Lelouch parce qu'il a été aussi pressenti à un moment. Claude Miller va quand même lire le polar original à table, et il y trouve des choses qui l'intéressent très personnellement. Et on peut le dire quoi, parce qu'il l'a dit, c'est le côté que dans cette garde à vue, la relation entre cet adulte et les petites filles. Alors, il est accusé de viol et du meurtre de trois petites filles.
Ça, on va y revenir.
Mais il y a aussi sa nièce. Voilà. Et c'est ce côté-là qui a intéressé Miller. Et c'est là-dessus qu'il s'est engouffré avec, en plus, aussi bien sa femme et productrice Annie que Jean-Louis Lévy, qui était aussi son agent, qui lui disent « Coco, là, ce serait quand même bien, t'as un film qui t'arrive, c'est le moment de s'embarquer ». Mais il va y avoir quand même, il y a des réticences, parce que Miller est dans cette idée que c'est un enfant de la Nouvelle Vague, même s'il a jamais fait de film Nouvelle Vague. Audiard, c'est un peu le diable.
L'ennemi de classe.
Donc, réaliser un film avec des dialogues d'Audiard, comment c'est possible? Et les deux hommes vont commencer par s'affronter très violemment avant d'apprendre à s'apprécier. Et si bien que c'est Audiard qui va chercher Miller pour faire Mortelle Randonnée, leur film suivant.
Alors les deux films de ce soir sont donc signés Claude Miller. On peut quand même constater une chose, c'est que nous avons des ingrédients communs à un point difficilement imaginable. Donc deux films de Claude Miller, deux films Audiard tirés tous les deux de Polar de la série noire, deux films Serrault qui confondent Serrault à des actrices exceptionnelles, Romy Schneider et Isabelle Adjani. Donc on a dans les deux cas des choses très très semblables et en même temps des résultats totalement différents, puisque l'un sera un huis clos effrayant et l'autre un road movie. Et l'un un film de flic, l'autre un film de détective. Le premier un film très très réaliste qui sent la clope et le café renversé, et l'autre une sorte de thriller onirique totalement planant, dont on se demande d'ailleurs si ça n'est pas un pur cauchemar et si
la question à Audiard. Est-ce que Mortelle Randonnée n'est pas un rêve? Ce sur quoi il était totalement contre. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment la réalité s'engouffre parfois dans Mortelle Randonnée pour ramener les personnages à des choses très triviales et comment le rêve s'invite dans Garde à vue. Et ça, c'est très fort. Et en fait, si on avait laissé Miller faire le Garde à vue qu'il souhaitait, ça aurait été bien pire. Dans le livret réalisé par Olivier Curchaud, qui accompagne, parce que il faut quand même dire un mot, ces deux éditions de Mortelle Randonnée et de Garde à vue sont sur TF1 dans la collection Héritage.
Il y a à la fois
le Blu-ray, le DVD et un livret qui est un vrai livret, c'est-à-dire qu'il y a 50 pages autour du film, en plus des bonus vidéo qui sont aussi supervisés par Olivier Curchaud, grand spécialiste de Miller, qui a filmé avec Luc Béraud, qui a été interviewé tous les gens qui ont touché de près ou de loin à la fabrication des films. Mais dans les livrets, il y a la première page du scénario tel que réécrit par Claude Miller. Et en fait, le film ne devait pas s'ouvrir sur cette espèce de d'ample mouvement à la Louma, sur le commissariat et tout ça. Il avait prévu d'ouvrir le film sur des photos de famille, d'un album de famille en noir et blanc de petites filles, genre à Noël, des cadeaux et tout ça. Et puis finalement, il y avait une photo couleur. Et la photo couleur s'animait et la gamine se retournait face caméra.
Effectivement.
Commencer le film comme ça, ça donnait tout de suite un autre angle d'attaque que ce que vous dites, le côté café froid et clope, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a, c'est la garde à vue, c'est tout. C'est comment un film de commande devient un film personnel. C'est-à-dire comment un truc formaté, le huis clos, le machin, l'adaptation du polar, Michel Serrault face à Lino Ventura, Guy Marchand en sidekick et Romy Schneider dans une apparition plus que formidable aux deux tiers du film. Comment ce côté qui pourrait être la quintessence du cinéma français, qui nous passionne pas, mais j'allais dire de qualité, devient un film totalement vibrant et personnel.
1980, Garde à vue, Claude Miller, donc un film qui commence effectivement par, l'accueil donc d'un notaire, un soir de Noël, un soir de réveillon, un notaire qui est accueilli dans un commissariat pour la suite d'une enquête de crime effectivement contre des enfants. Les choses sont assez amènes, assez respectueuses au début, mais rapidement elles vont tourner allègres.
Si vous avez soif, on a un distributeur dans le couloir.
C'est l'inspecteur Belmont qui a les pièces.
La petite Geneviève Le Bailly, vous la connaissiez un peu ou très bien?
Elle avait 8 ans, j'en ai 50. Un homme de mon âge ne peut pas connaître très bien une gosse de 8 ans.
D'après les gens du quartier, c'était une enfant très enjouée, très spontanée, non?
Rieuse, oui. Pas sauvage pour un sou.
Qui aurait suivi n'importe qui.
C'est ça, qui aurait suivi n'importe qui, de préférence un notaire.
Non, non, je ne dis pas ça. Hein.
Non, 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 non. Non, vous ne le dites pas, non.
Bon, alors, qu'est-ce que je tape, moi?
Tu tapes pas sauvage pour un sou.
Non, non, vous tapez tout. Les questions et les réponses. Elles sont tellement ignobles, vos questions, que vous en avez honte. C'est pas vrai, peut-être? Alors, à partir de maintenant, j'exige que tout soit consigné. Ça vous obligera peut-être à changer de ton.
Bon, d'accord. Alors, âge, profession, situation de famille.
Merde, alors!
Nom, prénom, profession, Martino.
Il me l'a déjà demandé,
vous. Alors, maintenant, c'est moi qui vous le demande. Puisque vous voulez qu'on tape toutes les demandes et toutes les réponses, alors j'attends les réponses. Vous vous appelez Martino?
Oui.
Jérôme?
Oui, Jérôme, Charles-Émile.
Voilà, Jérôme, Charles-Émile, Michel Serrault face à Lino Ventura dans la... un moment de bascule important de garde à vue de Claude Miller. Alors, faut d'abord quand même signaler le dispositif assez particulier de ce film, puisque nous sommes donc un soir de réveillon dans une ville de province.
Réveillon de la Saint-Sylvestre.
De la Saint-Sylvestre. Il pleut de manière quasi continuelle.
Ah non, non, il pleut qu'au début du film.
Oui, mais c'est véritablement, ah oui. L'arrière-plan est permanent, brouillé, et il n'y a absolument aucun. On voit une ville se détacher la nuit à l'arrière-plan, une sorte de grosse bourgade, de grosse ville de province, mais dans laquelle on ne rentrera pas ou très peu.
Ville de sous-préfecture, voilà, on pourrait dire.
Une sorte d'une ville un peu simenonienne, et on est quand même les otages de ce commissariat qui est attenant à la préfecture, de ce qui fait qu'il y a déjà dès le départ un balai assez étrange entre, je dirais, la police locale qui est de service la nuit de la Saint-Sylvestre, donc qui est fatiguée, qui fait un peu la tête et qui est un peu encline à la violence et à, je dirais, une espèce d'irritation facilement compréhensible. Et puis en face, il y a toute la gentry locale, la bourgeoisie qui défile dans des voitures on peut dire tout à fait, par des voitures de fonction, mais quasiment, avec un policier qui fait le service. Donc on a dès le départ une espèce de polarité assez étrange entre un salon mondain de province et puis un commissariat. Fausto Fazulo.
Oui, bah ça colle avec cette idée que c'est un peu le film de tous les chocs. Et comme le disait Philippe au départ, c'est choc Audi R. Miller, c'est un choc entre les personnages, c'est un choc de conditions sociales, c'est un choc de physique entre Ventura et Serrault. Il y a effectivement la bipolarité et le choc des lieux entre le commissariat un petit peu grisâtre, mais pas si déplaisant que ça, et puis la fête plus cossue qui a lieu, j'imagine, dans la préfecture juste en face. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment ces deux lieux finissent par dialoguer. Il y a des espèces de pauses justement dans le récit où Ventura sort, va fumer une cigarette et puis côtoie très très rapidement en fait le milieu d'en face. Il y a vraiment cette idée de double monde qui est vraiment assez passionnant et qui, au bout d'un moment, finit par donner le vertige. Je pense que c'est l'une des propositions de Miller, en tout cas.
Et ce vertige, il est bien dans le commissariat, parce que le film est principalement dans cette salle d'interrogation. Et alors, le film commence avec Ventura qui arrive. Donc, on est ce soir dans Saint-Sylvestre. Lui, il est avec son imperméable. Il est dans un costume, j'allais dire, de Lino Ventura. Ouais. Il est dans le policier. Et la grande idée, et qui est changée par rapport au roman, c'est que dans le roman, le suspect est un petit fonctionnaire, un type un peu médiocre.
Le roman de John
Alors que
Wright,
là, c'est vraiment le bourgeois, le notable, Maître Martino. Et la grande idée, c'est que comme c'est le soir de la Saint-Sylvestre, il est en smoking. Et alors, c'est un peu déplacé parce que cette année-là, c'est la première année où il n'est pas invité en face à la préfecture.
Parce qu'il est déjà plus ou moins soupçonné.
Comme il est déjà entendu, il vient comme témoin. Hein. Voilà. Au début de la soirée, il est comme témoin. Et le fameux titre garde à vue, ce sera à la fin du premier tiers où on décide de le mettre en garde à vue. Il est comme témoin, il vient comme... Mais alors, venir, vous comprenez bien que interroger un témoin le soir du 31 décembre, c'est quand même un témoin plus, soi. Et donc, lui est en smoking et en fait... Ce que disait Serrault, c'est qu'il a découvert, il a compris ce qu'était le personnage le jour où il a trouvé le costume. Parce qu'au départ, dans le scénario, ils n'avaient pas prévu que c'était le 31 décembre. Et c'est en discutant qu'ils ont décidé ça. Que lui a insisté pour être flamboyant. Il faut dire qu'il venait de faire Pile ou Face, qui était un film où il était déjà suspect et tout ça, mais où c'était un homme plus ordinaire. Et là, c'était important qu'il ait cette espèce de flamboyance. Et de manière un peu ironique, Audiard, avec qui il était très ami, Michel Audiard lui a dit « La prochaine fois, je ne t'enverrai pas le scénario, je t'enverrai le costume.
» Alors oui, c'est ça qui est quand même important. Et on le voit dès le départ, c'est-à-dire la prééminence et l'avantage immédiat de Serrault sur ce dispositif dramatique et cinématographique. Parce que quand on voit arriver Ventura, c'est Ventura dans le rôle de Ventura. Tout y est, le costume, la fatigue, mais la résistance physique, la carrure qui fait que la fatigue est quand même secondaire, l'habitude de se pincer les ailes du nez, justement pour lutter contre l'épuisement. Donc c'est Ventura dans le rôle de Ventura. Guy Marchand, qui est encore un peu un personnage latéral, un excellent second rôle à la française. Alors,
Guy Marchand, c'est l'idée de Claude Miller. Parce qu'il savait que Guy Marchand donnerait un côté un peu marrant à son personnage, déconneur, gaffeur, et que du coup, ça allait faire passer beaucoup de choses, éviter que le personnage soit infect. De même, les producteurs, au départ, avaient pensé, pas Ventura, mais Yves Montand. Et Miller était convaincu que Serrault irait bouffer complètement Yves Montand. Chez Ventura, il y a une espèce d'inertie qui est justement liée à cette force physique. Donc, on sait qu'il a été catcheur et tout ça, mais il a une espèce de physique, une espèce d'inertie qui fait que même fatigué, on sait que lui, il va tenir toute la nuit. On se demande pas s'il va être fatigué, s'il va être endormi et tout ça. Il va tenir de toute façon. Et le côté belle phrase de Serrault, il y a un moment où ça va faire flip ou flop contre le mur Ventura. Et c'est ça que raconte le film. Et c'est ça qui est assez splendide. C'est-à-dire que lui se refuse à la belle phrase par rapport à l'autre.
Alors, il a la stature granitique, on peut dire, de l'ancien catcheur Ventura. Le côté toujours un peu bougeant, dansant du second couteau Guy Marchand. Mais alors, le grand vainqueur, c'est quand même Serrault. Parce que ce costume noir est plus qu'un attribut mondain. C'est aussi une couleur. C'est un personnage noirissime. C'est un personnage extrêmement inquiétant, diabolique, méphistophélique. C'est un faux fait. Puisqu'on a, au départ, on a deux forts qui apparaissent avec tous les attributs de la force, c'est-à-dire soit la force institutionnelle, puisque ce sont des policiers, soit la force physique, puisqu'effectivement, ce sont des personnages habitués à en découdre, apparemment. Et Serrault a l'air du faible. C'est-à-dire ce notable de province qui est brusquement extirpé de son confort bourgeois pour être attiré une nuit de la Saint-Sylvestre, où il a sûrement autre chose en tête, à l'intérieur d'un commissariat. En plus, lumière au néon de Bruno Nuitaine, ça aussi, il faut le dire.
C'est-à-dire qu'il y a des néons dans la pièce, et son idée est d'éclairer le film avec les néons. C'est quelque chose qui se faisait pas du tout et qui les a amenés à repenser complètement, parce qu'en plus ça oblige à tourner à 25 images secondes.
Alors en plus, ce personnage de Serrault qui évidemment joue la surprise et peu à peu gagne un ascendant extraordinaire puisqu'il décide de rentrer, c'est un interrogatoire, donc il est mis en garde à vue. C'est un interrogatoire, donc, qui peut durer, je crois, 48 heures. Mais là, on voit que sur le terrain de la dialectique et non plus de la force pure, institutionnelle ou physique, Serrault est gagnant, puisqu'il déjoue en permanence les assauts rhétoriques et dialectiques de ses contradicteurs, au sens où il arrive toujours à se faufiler, il renvoie des balles coupées en permanence, il est toujours sous des allures de faiblesse qui sont en définitive des postures de repli qui lui donnent encore plus de force. Donc, on a quand même à faire là à une extraordinaire combat à front renversé entre deux puissants qui sont des impuissants et puis une espèce de personnage, je dirais, apparemment décadré qui, en définitive, donne la cadence et donne le rythme du jeu. Fausto Fazulo.
Oui, puis il est quasiment donné vainqueur dès le départ. Enfin, en tout cas, les premiers indices l'indiquent comme étant le grand gagnant. Il y a toujours cette idée d'échec programmé chez Miller. Et la chose qu'on peut remarquer dès le départ du film, si vous parliez des néons, c'est que déjà, les néons ne marchent pas. Donc, il y a un premier aveu de faiblesse logistique, en fait, quand il rentre dans la salle d'interrogation, enfin dans le bureau de Ventura, c'est qu'il est obligé de réparer la lumière, Guy Marchand, de laisser des traces de pas dégueulasses sur le bureau. Et dès le départ, on se dit, effectivement, la victoire n'est pas forcément dans le sens de la justice et de la loi. Et puis, il y a aussi le moment où il refuse un café en disant qu'il n'en a pas besoin, qu'il est déjà trop énervé. Mais là aussi, il essaye d'installer, quelque part, face à la force physique, de Ventura, une espèce de supériorité qui va être pendant très longtemps psychologique, puisque c'est sur ce terrain-là qu'il occupe littéralement le terrain. Ventura étant quelqu'un qui lui occupe l'espace, qui tourne autour de Serrault, qui bouge beaucoup, et Serrault, lui, effectivement, il existe par et pour son costume.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on se penche sur le tournage, Serrault est un ami d'Audiard. C'est-à-dire qu'Audiard écrit pour Serrault. Et Miller, au départ, va se battre contre Audiard et contre Serrault, alors qu'il va trouver un allié de poids en Ventura, qui, à son tour, a envie de réécrire certains textes de Miller Et donc, l'affrontement, il est aussi là. C'est-à-dire que sur la manière du texte, sur la manière de circuler la parole. Mais ce qui est, c'est évidemment Céro qui sort vainqueur, mais je dirais Céro l'acteur, plus que Céro le personnage. Parce que le personnage, sa défaite est ancrée aussi. Parce que finalement, ce type qui est en smoking, mais qui n'a aucune invitation, s'il n'était pas au commissariat, il serait chez lui à s'emmerder. Il a pas d'invitation pour ce soir-là. C'est-à-dire que c'est un type qui, on découvre toutes ses failles au fur et à mesure. Et sans révéler la fin, la fin est quand même son échec. C'est-à-dire qu'à deux reprises, il perd coup sur coup à la fin. Et si bien que c'est des victoires à la Pyrrhus. Il ne peut y avoir que des victoires à la Pyrrhus quand on a comme ça deux titans qui s'opposent. Et c'est ça aussi qui fait le charme très particulier de ce film. C'est-à-dire que nous, spectateurs, on est régalés de cet affrontement, comme un match de boxe où on verrait vraiment des champions de leur spécialité. Et en même temps, alors que toutes les lumières flamboyantes sont allumées, la mélancolie est constamment à l'œuvre.
C'est la monde qui vous a embarqué derrière les dunes.
C'est vrai, ça.
Drôle de petite salope, maintenant. Plus tard, ça devient des grandes salopes. Et encore plus tard, des vieilles salopes.
Vous êtes obsédé, vous, avec les salopes.
C'est pas elles qui m'intéressent. Plutôt comment vous vous y prenez. Les vieilles, pas de problème. Mais Jeannette, ça corrite, ça, non? Hein? Allez, racontez-moi. Ah, dites-moi. Comment vous faites? Vous y touchez, ça?
Non.
Non? C'est ça que vous faites? Alors dites, comment tu t'appelles, mon petit chat? Pauline. Oh, Pauline. C'est gentil, ça. C'est grognon, ça.
Ah ben, vous me faites mal, non?
Toi aussi, tu leur fais mal, hein? Toi aussi, tu leur fais mal.
Mais vous êtes dingue! Mais qui c'est qui est dingue?
Voilà, quand les sortilèges de la rhétorique échouent à percer les défenses de Michel Serrault, et quand la bonhomie, on peut entre guillemets, de Lino Ventura s'absente, eh bien, il reste plus que l'énervement et puis les coups de poing de Guy Marchand dans le rôle de l'inspecteur Belmont, qui passe à tabac Maître Martineau, alias Michel Serrault. Là, c'est le moment où tout cède et où, effectivement, là, le personnage de Serrault commence à avouer non plus ses faiblesses, mais ses plaies, parce que cet homme est couturé de plaies et de souffrances, et notamment c'est celle qui les incarne au mieux, c'est Romy Schneider.
Philippe. Oui, alors c'est sa femme qui, alors là, c'est la grande idée. C'est un petit rôle, mais un rôle très important. Ah oui. La production pensait faire appel à Françoise Fabian, qui a une espèce de charme.
C'était pas un mauvais choix.
Et qui aurait été un très bon choix. Et Miller dit, et pourquoi pas Romy? Pourquoi pas Romy Schneider? Et avec cette idée que Romy Schneider, en 80, c'est la superstar du cinéma français. Et tout d'un coup, la promesse qu'elle vienne là va rajouter quelque chose. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Miller la filme merveilleusement, c'est-à-dire que il y a toujours les dialogues formidables écrits par Audiard, mais ça se joue ailleurs. C'est-à-dire que c'est elle qui demande audience. Alors, pendant la garde à vue de son mari, elle demande à venir et son mari dit qu'il veut pas la voir. Donc c'est Gallien, Lino Ventura, qui va recevoir. Et quand il arrive, elle est dans une salle du commissariat à côté, elle est dans le noir. Et voilà, et il dit, mais on vous a laissé dans le noir, etc. Il remet la lumière et c'est elle qui va lui faire comprendre qu'elle préférait rester dans le noir. Donc il ouvre qu'une petite lumière d'appoint et il y a son visage qui apparaît en contre-jour. Et ce que dit Miller, c'est que sa référence à ce moment-là, c'est non pas la réalité du film, mais l'idée qu'il s'en faisait de Gene Simmons dans Angel Face de Preminger. C'est-à-dire que cette femme a derrière ce faciès merveilleux qui est celui de Romy Schneider, est une sorte de monstre. Et elle vient, en fait, enfoncer son mari, le balancer avec une histoire qui est l'histoire de leur petite nièce. Alors, ce qui est très extraordinaire, c'est que le film laisse au spectateur la totale liberté de savoir ce qui s'est passé. En gros, un soir de Noël en famille où tout avait l'air de bien aller, en allant chercher un bouquin qu'elle avait oublié dans la salle à manger, elle a surpris son mari, Maître Martineau, au pied du sapin, avec la petite nièce Camille de 8 ans. Et ce qu'elle dit, c'est que dans le livre...
Il lui parlait comme à une femme.
Voilà, il lui parlait comme à une femme, et on n'a pas le droit de faire sourire comme ça une gamine de 8 ans. Alors après, vous, derrière ces mots-là, vous mettez la réalité que vous voulez. Et c'est ça qui est très intéressant dans Garde à vue, c'est qu'on sait très bien que Martineau n'a jamais violé ses petites filles, ces crimes dont on l'accuse. Par contre, c'est pas une simple erreur judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, cette accusation entre en résonance chez lui avec une faille personnelle, quelque chose dans sa sexualité ou dans la construction de son personnage, et qui va complètement dicter son attitude pendant la garde à vue, et qui, nous, spectateurs, c'est le point d'entrée de Claude Miller dans le film, et pour nous, spectateurs, c'est quelque chose qui fait que c'est autre chose qu'un bel affrontement, mais que c'est un film totalement irrésoluble, et que peut-être pour le résoudre, il a fallu faire Mortelle randonnée derrière.
Eh ben, c'est ce que l'on va voir maintenant, en tout cas, signalons déjà, garde à vue de Claude Miller dans l'action... Collection, pardon, Héritage chez TF1 Vidéo.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà la musique de Carl Abley pour Mortelle randonnée de Claude Miller. Alors là, on n'est plus avec donc cet auteur John Renwright pour À table, donc une autre série noire, mais bien avec Marc Bame, qui est un formidable auteur de série noire qu'on peut lire en série noire et chez Rivage. Alors l'histoire, on est simple, eh bien c'est un détective privé qui a été déconsidéré par l'assassinat d'une personne qu'il était chargé de retrouver et qui est remis un petit peu dans le circuit grâce à la patronne d'une agence et sur une enquête quant à la visible, on va dire, au dévoiement d'un jeune enfant, d'un jeune fils de la bourgeoisie bruxelloise par une mystérieuse inconnue. Et le détective, donc c'est L'Œil, tel est son surnom, Beauvoir, Michel Serrault. Et Michel Serrault, eh bien, se met en filature, commence à suivre et à s'intéresser à ce couple et découvre, eh bien, que le couple est un couple fatal puisque le jeune garçon est assassiné. Et comme Serrault a en lui, alors on retrouve là les thématiques de garde à vue, eh bien, l'évanouissement, la disparition d'une fille, eh bien, il projette immédiatement cette espèce de peine, de souffrance psychologique sur la figure mystérieuse de cette tueuse, et il va la suivre de pays en pays, de ville en ville, de meurtre en meurtre, jusqu'à constituer un véritable personnage hallucinatoire, et joué donc par Isabelle Adjani. Et c'est l'histoire de cette traque, qui n'est plus une traque, puisqu'il ne tente pas de la retrouver pour l'appréhender et la déférer à la police, mais au contraire, pour la couver, pour la préserver, pour l'aider, et pour l'aider à s'épanouir véritablement dans le meurtre et l'assassinat. On apprendra qui elle est, quelle est son histoire. Et donc, c'est une sorte de renversement de situation. Ça n'est plus un détective qui traque une criminelle, ça devient un père qui traque sa fille imaginaire, monsieur Rouillet.
Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça devient une sorte d'ange gardien. Et cet aspect-là est donné très vite. C'est-à-dire que quand il découvre que non seulement le fils de famille est en proie à une aventurière, mais que l'aventurière ne veut pas simplement croquer la fortune du fiston, mais aussi carrément le zigouille, au lieu de s'en tenir là, il va faire croire qu'ils se sont séparés, que le garçon est en fuite, et il fait, pour continuer son enquête, qu'il va suivre les faits et gestes de ce garçon, alors que le cadavre est caché. Et dès le deuxième ou troisième truc, c'est que lui-même va passer à l'acte, c'est-à-dire que lui-même va tuer par complicité, en quelque sorte, pour aider. C'est-à-dire que non, c'est plus de la surveillance, c'est carrément de la bienveillance. Voilà. Et en quelque sorte, arranger le coup. À chaque fois, exactement, il est là, c'est véritablement un ange gardien. Alors, ce qui est très troublant, c'est que il y a un moment donné, parce que le film commence avec cette histoire de gamine. Il regarde une photo d'écolière, une photo de classe. Et il cherche sa fille. Et donc, nous, spectateurs, il y a au tout début du film, on se demande si c'est pas vraiment sa fille.
On écoute donc le monologue d'ouverture de Michel Serrault dans Mortelle randonnée, quand même un des très grands moments de la carrière de Michel Audiard.
Marie est née en 53, l'année de la mort de Staline. J'avais épousé Madeleine en 52, l'année de la bombe à hydrogène, atoll H, Psylette en bikini. Elles sont parties en 54. L'année de la guerre froide. J'ai reçu la photo en 61, l'année de rien. L'année de la photo. Longtemps, j'ai préféré la petite fille à la barrette. Tu as perdu, a dit Madeleine. J'ai couvert de baisers pendant des mois la petite effrontée qui sourit au photographe. Tu as perdu, dit Madeleine. Aujourd'hui, je les aime toutes pareilles. Ce sont mes enfants, mes petites maries. À tel point que j'appréhende de leur faire du chagrin. Car je ferai forcément du chagrin aux autres. Le jour où je pousserai la porte où j'entrerai dans la photo. Et que Marie viendra vers moi. Sois patiente, Marie.
Attends-moi. Voilà, le début de Mortelle randonnée. Alors après, évidemment, on va s'engager ce road movie totalement hallucinant. Mais ce qui m'a toujours semblé singulier dans cette mise en scène, c'est à quel point Miller et Audiard jouaient sur le fil d'un rasoir très, très étonnant, parce que effectivement, Adjani manipule le rasoir avec beaucoup d'efficacité, mais il y a même également un fil de rasoir dans l'histoire, de manière à faire en sorte qu'on ne sache jamais si c'est un rêve ou si c'est la réalité. Il y a une capacité à maîtriser l'onirisme du film, de même que son réalisme, toujours dans un équilibre très légèrement instable, une espèce de vibrato permanent qui est tout à fait extraordinaire, notamment au début, la toute première scène, quand Serrault va retrouver pour la première fois Adjani à côté d'un manège pour enfants. Là encore, on retrouve un enfant. Ça se passe dans une espèce de parc totalement un greens énorme, avec une fanfare militaire qui joue. On ne sait pas si on n'est vraiment pas dans un univers onirique. C'est très étonnant. On est dans le réel, mais en même temps, tout a été effacé pour que le réel ne conserve qu'une espèce de substance presque imaginaire.
Ben surtout qu'il y a cette folie du personnage qui contamine tout. C'est-à-dire que dans ce parc, il y a un petit garçon qui aborde Serrault en lui disant « Je cherche mon papa. Et toi, est-ce que tu cherches ton petit garçon ?» Et Serrault lui dit « Non, moi, je cherche ma petite fille. » Déjà, le dialogue est hyper chargé. Et il se balade avec son appareil photo, et c'est le gamin, en lui proposant de le photographier, qui, comme finalement, la photo, c'est un Polaroid, donc on a la photo tout de suite. Finalement, c'est la première apparition d'Adjani dans le cadre, et dans le cadre de la photo. Et tout est là. C'est-à-dire que le réel est là pour témoigner, elle est sur la photo, mais en même temps, qu'est-ce que c'est que cette photo? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à fur et à mesure que le film se développe, elle, c'est une fille qui se raconte des histoires. C'est-à-dire que très concrètement, comme c'est une criminelle, elle change d'identité, elle change d'apparence physique à chaque fois. Et elle change d'histoire. Elle raconte aux gens qu'elle côtoie des versions différentes de son passé, mais dont le héros est invariablement son père. Donc c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que ça devient une fille qui fantasme son père avec un homme qui fantasme sa fille. Et c'est ce double délire qui va créer cette union qui est terriblement contre nature, puisque la randonnée à laquelle il s'adonne est plus que mortelle.
Sixtine Audebert.
Moi, ce que j'ai ressenti dans ce film, c'est qu'il y a quelque chose de puissamment réflexif qui, en fait, désigne finalement l'art du cinéma comme fétichisme. Ça, c'est lié à la mémoire, avec les photographies, avec le fait qu'il y a eu une autre adaptation qui a été intitulée Le Voyeur. Et c'est souvent rapproché de Vertigo, de Hitchcock. Et je pense que c'est ça qui explique le fait qu'il y ait des moments incroyablement esthétisants au milieu, finalement, d'une caméra qui est plutôt une caméra réaliste dans l'ensemble. Et puis, de même, ces dialogues qui sont quand même aussi très lyriques, très envolés.
On peut dire que même ce principe, c'est la mise en abîme, c'est-à-dire que la mise en abîme du geste cinématographique. Qu'est-ce que c'est Claude Miller va voir Isabelle Adjani en disant « Je vais te filmer dans une dizaine de looks où tu seras à chaque fois plus glamour une fois que l'autre ». Et c'est ça qui est très intéressant. L'actrice est à fond dans cette complexité-là, avec cette idée. Quand on regarde bien le film, c'est très troublant. Plus on avance dans le film, et quand même les années passent dans l'histoire, plus elle ressemble à une enfant. plus elle ressemble à une petite fille. Ces deux dernières apparitions sont les plus rajeunies.
En même temps, on a entendu la scène du début, qui est une espèce de rituel sadique de la part à l'intérieur de ce couple, puisque lui téléphone à sa femme qu'il a quittée il y a très très longtemps pour une fois par an essayer de savoir sur la photo de classe qui est sa fille, puisque sa femme lui a envoyé cette photo de classe en disant ta fille est là, trouve-la. Et une fois par an, un coup de fil pour donner une identité possible, et elle répond oui ou non. Et apparemment, il se trompe tout le temps. Et en définitive, il fantasme chaque année sur une petite fille, puisqu'il en change d'année après année. De même qu'à l'intérieur du film, Adjani succède. Ouais. Les apparences d'Adjani se succèdent l'une à l'autre, comme sur la photo, on passe d'une petite fille à la frange à une petite fille avec...
C'est pour ça qu'il avait dit sur la photo, barrette, finalement, il les aimait toutes, les petites filles.
Voilà, c'est
et
ça.
Que son grand truc, c'est le jour où il va rentrer dans la salle de classe, avec cette idée que sa fille l'attendrait et tout ça. Et de toute façon, il veut même plus y rentrer, parce qu'il sait qu'il fera de la peine à toutes les autres petites filles.
Fausto.
Oui, puis il y a toujours aussi chez Miller cette idée que le début en fait contient tout le projet du film. Quoi. C'est vrai qu'au départ on a cette logique d'enfermement physique et psychologique avec le personnage de Serrault, qui est cadré serré au départ quand il regarde la photo qu'il a sa femme au téléphone. Et puis le plan suivant, on le voit, il est complètement prisonnier d'une minuscule pièce. Et là, on se rend compte que effectivement cet enfermement psychologique va aller de pair avec un enfermement physique. Et ça va culminer en fait dans le final, qui sans trop spoiler en fait contient lui aussi tout le projet du film avec des personnages qui se poursuivent dans un endroit vide, qui tournent en rond dans un parking avec une issue qui est...
Alors à la
et
fois,
un, et un ouais. épilogue et un épilogue où le réel se mêle à l'abstraction.
Absolument, parce que
qui va rentrer dans la photo.
Tout le film, les lieux auxquels on a affaire sont des lieux qui correspondent, je dirais, à la plus haute société européenne, des lieux qui sont quasiment socialement presque désincarnés parce qu'ils correspondent presque à une sorte d'abstraction du luxe.
Voilà.
Le luxe les rend abstraits. Alors on a d'abord effectivement le magasin des chaussures, qui est tout à fait admirable. Ensuite, il y a une sorte de résidence au bord d'un lac. C'est un endroit, on dirait, une peinture symboliste. Ensuite, il y a eu un Baden-Baden, là où toute l'Europe des princes venait faire sa cour. En plus, il y a une assemblée de mannequins, de top modèles, et une chanteuse schubertienne. On est complètement là aussi dans un rêve, dans l'onirisme. Ensuite, Adjani tombe amoureuse après une rencontre dans un café, dans un restaurant, de Sami Frey, qui est un multimilliardaire qui vit dans une demeure hallucinante sur la Riviera italienne. Là aussi, la demeure est un décor de théâtre ou d'opéra, dans lequel on entend Salbers qui chante la Paloma, ce qui continue encore plus à l'esthétiser et à l'arracher à la réalité. Et moi, ce qui m'a plu, finalement, on a reproché à ce film de jouer sur une esthétique de pub, c'est n'y rien comprendre. Parce que c'est une esthétique qui est celle du luxe, qui est celle de la très haute société, qui est celle de la pure beauté, de la gratuité, de la dépense. On n'est pas du tout dans le social, mais ça joue dans le sens de l'onirisme. Et si Miller n'avait pas mobilisé cette esthétique, il n'aurait pas eu l'effet d'onirisme. Et même à la fin, où on retombe, alors là, comme si on tombait sur les reins dans le social, puisqu'elle finit par à Charleville, dans un hôtel miteux, comme totalement après que les choses se soient renversées, qu'elle ne puisse plus jouer sa comédie habituelle. Même là encore, on est dans le réalisme magique, on est presque dans celui de Carnet ou de Clouseau.
Absolument, mais c'est très important ce que vous dites là, et les repérages ont été très longs, parce qu'il n'a pas fait, construire les décors, il a trouvé des vrais lieux sur les endroits, dans les pays. Le film a été tourné tout autour de l'Europe, et le mot de Miller, c'était qu'il voulait rendre ces lieux du luxe de manière rêveuse.
Exactement.
C'était le
but.
C'était
atteint.
Son mot. Tu vois, et une approche rêveuse de Baden-Baden, de Monte-Carlo, de tous ces endroits-là. Et ça imprègne évidemment complètement l'image et qui le sort du côté esthétique pub et cliché. Parce qu'il y a cette dimension onirique puissante à l'intérieur même du cadre. Et Sixtine a raison quand elle dit que à côté de ça, la caméra est très... je veux dire, c'est pas des mouvements à la Lelouch.
Ah non,
c'est pas du tout des arabesques de Masque Ophuls. C'est vraiment une mise en scène très carrée, mais c'est le contenu qui est rêveur.
Mortelle randonnée, donc, dans la collection Héritage.
Avec deux versions.
Avec deux versions,
absolument.
Ce qu'il
faut savoir, c'est qu'à la télévision, il y a toujours une version courte d'1h40, parce que Jurgenson, le monteur, n'était pas satisfait. Donc là, pour la première fois en vidéo, vous avez les deux versions. Il y a 20 minutes d'écart et... Enfin, pour moi, le match, il est joué tout de suite. C'est-à-dire que c'est vraiment la version longue qu'il faut voir, parce que dans la version courte qui suit exactement la même composition, la même structure, ce qu'on a enlevé, eh ben, c'est une partie du rêve.
Mortelle randonnée et garde à vue, donc dans la collection Héritage chez TF1 Vidéo. We'll be right back. Why Yoko Ono, monsieur Fausto. Donc, on commence avec vous pour une réédition, même une édition en DVD. Je ne pense pas que le film soit si connu que ça. Chez Blackout de R100, comédie SM japonaise.
Alors oui, c'est un film qui n'est pas si connu que ça, mais figurez-vous qu'il a failli sortir en salle, puisqu'il a été acheté par un distributeur français, il a été acheté par le Pacte il y a quelques années, et que le film a failli connaître en fait les joies de l'exploitation salle. Alors c'est, à l'échelle japonaise, c'est plutôt un gros film, hein, puisqu'il est distribué au Japon par la Warner, donc c'est toujours drôle en fait de se dire qu'un film distribué par la Warner peut être une comédie sadomaso, c'est le cas de ce film, donc R100. Juste un petit éclaircissement concernant le titre. Alors pourquoi R100? En fait, R100 fait référence au système de classification des films au Japon. R15, ça veut dire interdit au moins de 15 ans, donc R100, très logiquement, veut dire que c'est un film interdit au moins de 100 ans. Bon. Voilà, donc le ton est donné. Hitoshi Matsumoto, son réalisateur, en gros, pour essayer de lui trouver une correspondance française, imaginez que ce serait soit Patrick Sébastien, soit Jean-Marie Bigard, à savoir un comique qui a une exposition assez puissante dans son pays d'origine, mais qui, à côté, en fait, nourrit des dessins artistiques qui sont très différents de ce qu'il fait dans sa vie médiatique. Donc c'est un metteur en scène, il a commencé par un film qui s'appelait Big Man Japan, qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, ensuite il a enchaîné sur Symbol, et ensuite Saya Zamurai, qui était une espèce de comédie douce amère en costume, et là, avec R100, c'est un petit peu son grand œuvre. L'histoire, c'est de raconter à la fois la condition du mal japonais et de voir comment celui-ci en fait ploie littéralement sous la pression sociétale, et en même temps c'est aussi de faire une histoire qui raconte comment un film se conçoit, donc avec une velléité de mise en abîme. Tout ça a l'air très très complexe sur le papier, mais le spectacle à l'écran est vraiment réjouissant. C'est un film que certains critiques américains ont rapproché des travaux de Louis Buñuel, mélangé à Fight Club de David Fincher. Je pense que ça donne une vision assez juste du cocktail détonnant qu'est R100 de Hitoshi Matsumoto.
Et c'est disponible chez Blackout.
Chez Blackout.
Dans une collection, monsieur Philippe Rouillet.
Black Market.
Black Market, qui est quand même à surveiller de très près. L'enfant miroir.
C'est ce qu'on fait.
Chef-d'œuvre absolu.
Le film avait eu le prix 109, si ma mémoire est bonne, au Festival de Beaune.
Donc Black Market chez Blackout, donc collection tout à fait adaptée à nos goûts,
Et en pack avec Mad Movies, je ferme la parenthèse, voilà. Autopromotionnel.
Excellente idée. On continue avec vous, Sixtine Audebert. Et le Y-Con Convention voilà, Festival.
Convention.
Autant pour moi.
Donc la 5e édition s'est tenue donc le week-end dernier à Paris. La Y-Con, c'est en fait le festival de l'homofiction, c'est-à-dire des littératures homo-érotiques. Et Y, c'est pour Y, donc pour yaoi, et beaucoup moins que pour yuri. Bien évidemment, les auditeurs se demandent pourquoi ces sigles japonais et que signifie-t-il? Eh bien, parce qu'une majeure partie de la production présentée dans ce festival, c'est du manga, et c'est notamment du yaoi. Qu'est-ce que le yaoi? C'est un genre du manga qui met en scène des relations homoérotiques entre hommes, mais attention, chose importante, écrit par des femmes et destiné à des femmes. Au fujoshi, en japonais, c'est-à-dire en fait les filles pourries, la version féminine des otaku. Donc c'est évidemment, il y a toujours quelque chose d'un peu émancipateur, une dimension d'empowerment dans cette espèce de romance queerisée, mais ça reste avant tout une littérature de distraction pour le pur plaisir. Et en plus, il faut garder en tête que dans le yaoi, c'est souvent des hommes très androgynes, et pour la plupart dans les romances, les couples ont tendance à conserver le schéma un peu genré de la relation homme-femme en choisissant un dominant et un dominé, un pénétrant et un pénétré, un senpai, c'est-à-dire un plus âgé, audacieux, viril, séducteur, et un plus jeune, timide et rougissant comme une jeune fille. Et enfin, la plupart du temps, la consécration de la relation, le premier baiser prend la forme du viol, c'est-à-dire en fait de la répression de la sexualité. Aboutit à une violence fantasmée.
Alors tout cet univers était présenté donc à la convention, avec des maisons d'édition spécialisées, des collections.
C'est ça, vous serez bien surpris d'apprendre justement que le male to male n'est pas une romance qui est spécialisée dans le manga. Au contraire, c'est l'autre moitié des stands. C'est un phénomène qui s'est développé depuis les années 70-80 avec le couple queer, la lecture queer du couple Spock et Kirk, donc par les fans. Aujourd'hui, on voit partout fleurir des communautés internet de lectrices qui proposent ce qu'on appelle des slash, c'est-à-dire des fanfictions, des relectures altérées par les fans des histoires qui mettent en scène des couples homosexuels. Et donc ça, c'est les éditions Harlequin. Qui défendent donc une romance pour tous, avec leur collection numérique HQN, qui ont pu en intégrer quelques exemples à leur catalogue. Et pour vous prouver que le mail-to-mail plaît à tout le monde, Jean-Luc Riviera était ce week-end au festival, et il présentait HV Gabriel avec les loups-garous de Riverdance, qui est d'une romance lupine et bestiale s'il en est, sortie chez Mehdi Brajlon. Et pour conclure, donc, mon seul regret à exprimer, la faible représentation au salon du yuri. C'est l'inverse du yaoi, c'est-à-dire des romances entre filles, par des hommes, pour des hommes, mais que certaines filles prennent plaisir à lire, et le genre proprement destiné à un public homosexuel, le bara, qui met en scène des relations entre hommes un peu plus viriles et un peu plus crues.
Merci Sixtine, donc tout renseignement à retrouver sur notre page réseau social, donc Mauvais Genre, France Culture. On termine cette émission bien évidemment dans une tonalité équivalente avec le maître Christophe Beer.
En 2014 paraissait Hide and Seek, premier artbook édité par le collectionneur et vendeur new-yorkais de curiosités érotiques Joseph Vasta. Il vient de récidiver avec l'ensorcelant Dr. Seek and Mr. Hyde, de nouveau conçu par le duo d'artistes Gilles Berquet et Mirka Lugosi. Cette édition limitée à 223 exemplaires propose un somptueux format 24/33 sur un papier de luxe qui invite aux rêveries labyrinthiques. Il s'agit moins d'un étrange cas de double personnalité que d'une ludique et sensuelle complémentarité, les dessins de l'une travaillant les photos de l'autre ou inversement. Car ce n'est pas le beau Défense d'ouvrir dans lequel les photographies de Gilles devenaient matière expérimentale à l'inspiration graphique de Mirka. Les forces s'équilibrent ici pour célébrer des modèles de chair et d'encre. Un tourbillon graphique vibrionne autour d'une femme plantée dans des talons aiguilles. Les tresses naturelles d'une autre se prolongent en filaments jusqu'au poignet. Des compositions au crayon bleu turquoise décorent toute la surface d'un corps lactescent, tandis qu'une autre, véritablement tatouée, s'arc-boute, pieds tendus dans de noirs ballets de choses, sur une forme mouvante de couleur jade. Des veloutes irisées multicolores flottent sur la page d'un modèle musclé, surgi d'un fond noir. L'éclairage du photographe dissimule le ventre et le pubis, illumine la surface des cuisses, la poitrine et le visage durci, tandis que la dessinatrice caresse d'un rouge brûlant les courbes des hanches, la ligne des bras. Le travail de Berquet a toujours réinventé le corps des femmes. L'érotisme fétichiste, dont il ne reste ici que d'affolants souliers, y contribuait par les liens du bondage, la tension expressive des muscles, les accessoires. Les modèles qui posent désormais dans son atelier, débarrassés de l'héritage SM, offrent aussi une troublante grâce. Créature plus tout à fait photographiée, pas entièrement dessinée. Cette magie est accentuée par le dispositif de l'ouvrage. Les doubles pages se déploient, pliées, dépliées, dans un jeu de combinaisons qui fait apparaître, disparaître ces idoles mutantes.
Merci Christophe Beer. Je rappelle les sujets que nous avons évoqués ce soir à Mauvais Genre. Évidemment, d'abord et avant tout, Claude Miller qui revient en beauté avec Garde à vue et Mortelle randonnée en deux coffrets collecteurs tout à fait remarquables chez TF1 Vidéo dans la collection Héritage. L'occasion donc de découvrir là, évidemment, la version longue durée de Mortelle randonnée. Je signale également donc le festival Explicite, expression plurielle du sexuel. C'est du 22 au 27 novembre à Montpellier. Et puis, bien évidemment, R100, disponible chez Blackout dans la collection Black Market. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Pierre Martel, Claire Martin-Dugard, Anaïs Isbert, Céline Duchesnet, Sixtine Audebert, Philippe Rouillet, Fausto Fazulo, Christophe Bire et François Joliet vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, une émission un peu particulière, puisque nous serons en faux direct à 15h depuis le Salon du Livre Radio France, donc à la Maison de la Radio à Paris, en compagnie de Guy Darol, qui vient de sortir chez Folio Biographie une très très belle biographie de Frank Zappa. Et pour l'occasion, je serai bien évidemment accompagné des deux Zappaïens d'élite de l'émission, Paco Mtielman et Antoine Guillot. C'est donc samedi prochain à 15h au Festival du Salon du Livre de la Maison de la Radio. D'ici là, eh bien, écoutez, bonne nuit à tous, mais surtout on reste à l'écoute de France Culture et l'on écoute bien sûr les Métronomiques d'Amaury Chardot.